Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui démarre ce soir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre Complot Brunswick sur un titre de 1982 qui s'appelle Le cœur et la raison. Pourquoi ce titre ? Eh bien parce que ce soir nous échangeons autour d'un livre de Pascal Angèle aux éditions Agone qui s'appelle Manuel rationaliste de survie. C'est Michel qui nous présente ce manuel survivaliste. C'est donc édité chez Agone
en 2020.
On est dans une actualité quasiment brûlante. C'est donc Michel qui nous parle de ce livre qui lui a donné à penser.
Alors ici on n'utilise pas le verbe penser de façon intransitive, Jean-Mathias. Tu as gagné un point Heidegger qui te vaudra
au fait.
Et donc quelques génuflexions, disons. Donc le manuel rationaliste de survie donc de Pascal Angèle. Alors donc Pascal Angèle, c'est un professeur de philosophie français qui évidemment vous en doutez est plutôt rationaliste. Et malgré l'opposition présente ici même dans le studio, bien qu'elle soit silencieuse,
on accueille un compagnon de route de cette émission, un compagnon de route qu'on peut dire, Martin Oliveira, qui a été invité dans cette émission il y a déjà quelques temps. Et qui est évidemment invité cordialement à intervenir dans ce...
Mais il a demandé qu'on coupe son micro. Mais bon, ici l'idée c'est que on défend souvent une espèce de rationalisme dans cette émission, même si on n'explicite pas toujours forcément les tenants et les aboutissants de ce type de position, puisqu'il y a toute une histoire derrière qu'on a souvent exposée, que je vais peut-être réexposer vite fait. C'est que globalement, le courant anarchiste, mais pas seulement tout un tas de courants progressistes, sont longtemps inscrits dans l'héritage des Lumières, qui était un héritage rationaliste, et qui était l'idée que, en quelque sorte, le progrès moral, politique de l'humanité pouvait s'appuyer sur une espèce de progrès de la raison théorique, du progrès de la raison scientifique, mais pas seulement, et aussi une expansion de la connaissance dans le peuple, et pas seulement chez quelques privilégiés. D'accord, sociaux, politiques et autres. Et au cours du XXe siècle, en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout d'un coup, la gauche s'est en quelque sorte un peu distinguée ou a voulu commencer à s'opposer à ce rationalisme en lui imputant tout un tas de défauts et d'errance à la fois politique et autres. Et on s'est retrouvé sur des positions, assez étonnantes. Où maintenant, d'une certaine manière, on joue à front renversé, puisque c'est très très souvent, la droite ou les courants conservateurs qui vont se revendiquer de la raison, qui vont dire c'est nous les raisonnables, c'est nous les rationalistes, tandis que en face, on a l'impression d'avoir un petit peu les berruriers noirs qui vont dire c'est nous les fous, les rebelles, et la raison, c'est le pouvoir en marche et c'est l'oppression en marche. Et là-dessus, nous, on est quand même relativement embêtés parce que on a tendance à penser que, sans rationalité, la contestation politique a peu d'avenir, disons, ou que du moins elle a peu d'armes. Si on exclut évidemment les rapports de force qui, eux, se moquent bien des raisons. Mais là aussi, pareil, si on voulait faire en sorte que les gens vivent mieux de manière globale, c'est quand même compliqué de s'en tenir qu'au seul rapport de force, disons. Et c'est un petit peu l'idée. Et ce qui fait que on va souvent, ici, en tout cas, défendre plutôt des positions rationalistes. Et Angèle, donc, qui n'est pas du tout un anarchiste, même si Jean-Mathias l'aime beaucoup, pour des raisons qui ne seront pas dites à l'antenne.
Qui lui sont propres.
Qui lui sont propres. Et donc, Angèle, c'est vraiment pas un anarchiste ou un révolutionnaire. Après, il fait partie des gens qui vont défendre dans le champ politique des positions rationnelles. Enfin, dans le champ politique, pas seulement dans le champ philosophique, mettons des positions rationalistes. Après, on pourrait discuter de savoir si on peut transférer ces positions rationalistes du champ philosophique au champ politique, s'il y a moyen de le faire ou si c'est trop compliqué. Mais voilà un petit peu la base. Et donc, qu'est-ce qui fait d'une certaine manière que, voilà, pour nous aussi, ça peut être, je peux le rappeler, d'une certaine manière, une grande partie de la gauche, d'extrême gauche française aujourd'hui, s'appuie sur des positions qui, philosophiquement, étaient tenues par des opposants aux Lumières qui étaient plutôt classés à la droite, voire à l'extrême droite. Et donc, il y a une espèce là de tête à queue historique et idéologique assez intéressant.
Tu peux peut-être pour préciser les choses, c'est qu'effectivement souvent la critique qui est faite à gauche, avec des tous les guillemets qu'on veut de ce côté-là, de la raison, c'est une critique du pouvoir des experts, une critique de l'autorité scientifique, et qui est effectivement élargie à l'idée d'une critique de l'autorité tout court, qui est censée effectivement s'appuyer sur de l'argumentation, des justifications rationnelles. Et donc ce qui est perdu dans cette affaire-là, c'est l'idée que au fond la raison c'est quand même le seul instrument qui reste pour contester un argument d'autorité, justement, et que c'est une perte importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne demande plus, où on renonce à demander des raisons ou des preuves, eh bien ce qui reste, c'est la force et l'autorité brute, je dirais. Et donc c'est effectivement une question sérieuse, quoique abstraite, mais qui en fait a des conséquences très précises, en fait. Hein.
Ça, en particulier dans le débat public et dans ce qu'on peut exiger du débat public en matière de qualité d'argumentation. Même si, effectivement, là, on est aussi confronté à des forces qui nous dépassent totalement largement, des forces du capitalisme, des forces des médias qui en dépendent, etc. Et donc, là, le bouquin donc d'Angèle, Manuel rationaliste de survie, publié chez Agone en 2020, c'est un recueil d'articles qui va justement aborder différentes questions qui ont trait au rationalisme. Donc des questions telles que peut-on définir l'antirationalisme? Pourquoi est-ce que en France la tradition philosophique est devenue massivement anti-rationaliste? Ou non, quels sont les types de positionnements qu'on va trouver dans la philosophie française? Et puis ensuite, il va revenir sur des questions qui sont peut-être plus qui sont toujours aussi directement philosophiques. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut définir la raison? Est-ce qu'on peut se reposer sur une norme de vérité un peu solide? Est-ce que le relativisme, est tenable? Et quelle pourrait être une espèce de programme rationaliste qui ne s'en tienne pas, ça c'est un point peut-être assez important de son bouquin, qui ne s'en tienne pas une simple raison critique, mais il y a chez Angèle la volonté de produire une espèce de rationalisme qui soit un petit peu armé de principes consistants et qui ne s'en tienne pas juste à une espèce de socratisme du type « donne-moi tes raisons, je verrai si elles sont cohérentes ». Donc ça peut s'accompagner par exemple d'engagements ontologiques du type « est-ce que le rationalisme, la défense de l'idée que à la base de la connaissance et à la base de la morale, on peut avoir des argumentations rationnelles. Est-ce que le rationalisme, par exemple, être idéaliste, faire croire que, en quelque sorte, le monde est le produit de notre connaissance, pour aller vite, ou l'inverse, c'est-à-dire est-ce que la réalité va servir de norme à notre connaissance. Donc, il essaie aussi de définir un rationalisme un petit peu comme ça, consistant. Pas de questions, Jean-Mathias?
Ça va.
Pas d'objection?
On suit.
Ça va. Enfin, tu suis. Et donc après on peut se dire en quelle mesure, parce que là aussi il y a peut-être pas mal de confusions qui ont été entretenues, dans quelle mesure est-ce que la philosophie française par exemple peut être considérée comme anti-rationaliste. Alors là, grande dame de Jean-Mathias, je voudrais citer deux passages, un passage de Foucault, un passage de Deleuze. Un passage de Foucault où il dit, en quelque sorte, donc ça c'est dans les critiques qu'on peut trouver dans la tradition philosophique française de gauche ou en extrême gauche, les critiques du rationalisme et de la notion de raison. Donc c'est un passage d'une interview de Foucault où il dit « Je pense qu'il est important dans l'histoire de l'Occident qu'on ait inventé des systèmes de domination d'une extrême rationalité. Il s'est écoulé beaucoup de temps pour en arriver là, et plus de temps encore pour découvrir ce qu'il y avait derrière. On relève tout un ensemble de finalités, de techniques, de méthodes. La discipline règne à l'école, à l'armée, à l'usine. Ce sont des techniques de domination d'une rationalité extrême. Sans parler de la colonisation, avec son mode de domination sanglant, elle est une technique mûrement réfléchie, absolument voulue, consciente et rationnelle. Le pouvoir de la raison est un pouvoir sanglant. » Alors, à y regarder plus près, c'est la confirmation de la rationalité. Les délinquants servent la société économique et politique. Il en va de même avec les malades. Il suffit de penser à la consommation de produits pharmaceutiques, à tout le système économique, politique et moral qui en vit. Ce ne sont pas des contradictions, il n'y a pas de reste, aucun grain de sable dans la machine. Cela fait partie de la logique du système. En allemand, Vernunft a une signification plus large que raison en français. Le concept allemand de raison a une dimension éthique. En français, on lui donne une dimension instrumentale, technologique. En français, la torture, c'est la raison. Mais je comprends fort bien qu'en allemand, la torture ne peut pas être la raison. Et donc ici, vous avez quand même, à mon avis, un passage qui est quand même magnifique, puisqu'on passe de système de domination rationnelle, ou du moins d'une rationalité, à le pouvoir de la raison, c'est un pouvoir sanglant. C'est-à-dire que le pouvoir soit rationnel, c'est une chose, que la rationalité soit sanglante, c'en est une autre. Simplement, ici, Foucault passe d'une relation, comment dire, d'une conjonction à une double implication. Donc là, il y a quand même un petit souci. Mais après, par quoi est-ce qu'on va remplacer ça? Et après Deleuze, ici, une autre identification, ce serait la raison, c'est l'État. C'est que la pensée emprunte, alors là c'est Deleuze, c'est que la pensée emprunte son image proprement philosophique à l'État, comme belle intériorité substantielle ou subjective. Elle invente un État proprement spirituel, comme un État absolu, qui n'est nullement un rêve, puisqu'il fonctionne effectivement dans l'esprit. D'où l'importance de notions comme celle d'universalité, de méthode, de questions, de réponses, de jugement, de reconnaissance ou de recognition, d'idées justes, toujours avoir des idées justes. D'où l'importance de thèmes comme ceux d'une république des esprits, d'une enquête de l'entendement, d'un tribunal de la raison, d'un pur droit de la pensée avec ses ministres de l'intérieur et des fonctionnaires de la pensée pure. La philosophie est pénétrée du projet de devenir la langue officielle d'un pur État. L'exercice de la pensée se conforme ainsi au but réel de l'État réel, aux significations dominantes, comme aux exigences de l'ordre établi. Alors Mathias, tu as l'air pénétré d'une pensée.
Non, je veux rien du tout. Non, effectivement, les citations sont bien choisies. Mmh. C'est celle, merci. Effectivement, celle
de Pascal Engel.
Celle de Pascal Engel. Non, mais elles sont bien choisies, parce que là, tu as un florilège, effectivement, de tout ce qui, de toutes les ramifications que tu peux trouver dans ces critiques de la raison, hein,
et qui sont pas entièrement, et qui sont pas complètement, complètement fausses, ou qu'on peut pas forcément écarter d'un revers de main, pour le coup, je pense. Mm-hmm. L'idée que le pouvoir est rationnel, le pouvoir essaie d'aller vers davantage de rationalité, ben c'est quelque chose qu'on avait vu avec Scott. Mm-hmm. On peut contester cette rationalité du pouvoir. Je pense que c'est une piste à creuser. En même temps, malgré tout, c'est un fait qu'on a essayé d'introduire des moyens de connaissance de plus en plus poussés dans l'État pour avoir de plus en plus de contrôle, par exemple. Ensuite, ça va être l'identification peut-être d'une technique de gouvernement la réduction d'un principe philosophique à cette technique de gouvernement qui pose problème, je pense. C'est peut-être le lien entre les deux qui est fait hâtivement. Et donc ça, c'était pour dire, voilà, comment est-ce qu'on est passé d'une certaine manière, d'un Voltaire, d'un Diderot, ou de gens comme ça, qui vont dire le pouvoir encourage la superstition afin d'imposer davantage, sa domination sur les gens à partir d'idées fausses, à l'idée que, la raison c'est l'État, et que l'État a besoin de la raison pour gouverner. Je pense que là, il y a quand même un virage qui est très très fort.
Ah bah oui, c'est même un tête à queue. Hein.
C'est un tête à queue, et donc là-dessus, voilà. Et après, il va dire, justement, Angèle, il commence par reprendre en quelque sorte les principes de l'irrationalisme actuel, qui n'est pas toujours facile à déterminer, parce que très très souvent, jamais un Deleuze ou un Foucault vous diront qu'ils sont irrationalistes. Pas plus qu'un de leurs ancêtres, Bergson. Ils diront toujours qu'ils sont davantage pour une raison large, une raison concrète, une raison vivante, ce genre de trucs. Donc, un des trucs que je trouve pratique dans le bouquin d'Angèle, et qui en fait une espèce de manuel rationaliste de survie, même si j'avoue que à certains niveaux, il serait pas forcément facile à lire pour des néophytes complets. Y a pas mal de passages qui supposent quand même une culture philosophique un peu conséquente. Malgré tout, il fait des espèces de listes. Ça, ça va être son côté fasciste. Il fait des listes.
Tu mets des guillemets, bien entendu.
Bien sûr, évidemment. C'était, comment dire, c'était d'ironie. Et
préviens, parce que bon, on est à la radio.
Mais c'est vrai, t'as raison, il faut prévenir. Et donc, il va dire, par exemple, il fait une liste des principes de l'irrationalisme. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est un truc qu'on pourrait discuter. Premier principe de l'irrationalisme, selon lui, c'est un principe d'anti-abstraction. Or, la raison est abstraite, elle est faite d'idées et de concepts qui sont sans rapport avec le vécu, la vie. Et donc, il n'y a que des principes généraux qui sont dépendants du contexte. Or, ce qui compte, ça va être le sens, les sens, le concret, le contexte, qui sont le réel. D'accord ? Et le fait que la raison produise des concepts, c'est quelque chose qui va l'éloigner du réel, et donc ça, c'est mal. Deuxième principe, et c'est quelque chose dont on a souvent discuté aussi, ce serait l'anti-universalisme. Là-dessus, il n'y a pas vraiment d'universel. Et en particulier, il n'y a pas d'universel abstrait. Il n'y a que des particularités. Alors là, il utilise un truc, à mon avis, volontairement contradictoire quand il dit des universaux concrets, partagés, dispersés, locaux, incarnés. Je vois pas comment ça peut être des universaux dans ce cas-là.
Et donc, c'est valable pour tout le monde, mais simplement à un endroit.
C'est ça.
Voilà. Concrètement.
Bah, ce qui est le cas de pas mal de coutumes, pour le coup, on imagine qu'elles sont valables pour tout le monde parce qu'on s'imagine être tout le monde, ou du moins on s'imagine être les gens auxquels le concept de tout le monde est applicable. Mais par exemple, si tu prends un vieux philosophe un peu réac comme Hegel, justement, il veut dire que ça c'est un universel abstrait, pas un universel concret. C'est-à-dire c'est une particularité qu'on confond avec de l'universel. Ensuite, ça va être lié, il y a fictionnalisme. C'est-à-dire, alors ça, je ne sais pas pourquoi il appelait ça fictionnalisme, il aurait pu appeler ça nominalisme, c'est l'idée que les abstractions et les universaux sont des fictions, sont des mots. Et qu'en réalité, il n'y a rien de tel. C'est-à-dire que la raison n'a rien d'inné, de naturel dans l'esprit humain. Tout ça, c'est que des fictions qui ont été inventées par des fonctionnaires pour assurer leur pouvoir, en quelque sorte. Ce qui pose certains petits problèmes quand on se penche, par exemple, je sais pas moi, sur les mathématiques, la physique et autres. Mais bon, ici je pense que c'est pas en cause. Ensuite, il y a la rationalisation. Et ça va être la réduction de la raison à la technique. C'est-à-dire l'idée que la raison, c'est forcément la raison instrumentale.
Qui vise l'efficacité.
Et donc, avec aussi de nouvelles formes d'organisation, etc. Cinquième principe... Ça va être la puissance, à la fois puissance et impotence, c'est que d'un côté, la raison vise à la toute-puissance à travers la technique, ce qu'on vient de voir, et qu'en même temps, ce n'est qu'une illusion qui n'a aucun impact sur notre comportement au quotidien, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas guider réellement nos actions, parce que nos actions seraient en réalité toujours guidées par, comment dire, dans l'incertitude, la contingence, par la passion. Donc la raison sera à la fois toute puissante et plus ou moins impotente. Toute puissante au niveau politique, impuissante au niveau individuel. Donc bon, c'est un peu contradictoire ici, peut-être que il présente les choses à sa façon aussi. Ensuite, un sixième point intéressant dans l'irrationalisme contemporain et peut-être pas plus particulièrement français, ce serait l'idéalisme et le subjectivisme. C'est-à-dire l'idée que non seulement la raison ne peut pas connaître la réalité du fait de son impuissance, mais qu'il n'y a même pas de réalité. Il n'y a aucun fait, il n'y a que des interprétations. Et donc, ici, la subjectivité devient tout d'un coup la seule réalité véritable, la seule chose qu'on peut connaître à peu près, et tout le reste, c'est de la fiction. Septième point de l'irrationalisme contemporain d'après Angèle, ce serait le relativisme et le pragmatisme. C'est-à-dire que, globalement, toute vérité est relative à un contexte donné, et recherche une espèce d'efficacité immédiate. Donc c'est jamais une vérité. C'est toujours quelque chose qui est, ben justement, qui est pas universel, mais qui va être local, et avec un but, comment dire, très limité. Ensuite, et là on va, comment dire, tout ça c'est lié, ce serait, et c'est des choses qu'on ne va pas retrouver chez tous les irrationalistes. C'est plutôt une espèce de patchwork qu'on va trouver, dont on va trouver des bouts, à différents intervalles, etc. Ce serait le vitalisme et le règne de l'affect. Donc là on est plutôt du côté pratique. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est quoi ? C'est plutôt le vécu. La raison, c'est la mort. La vie, c'est l'émotion, c'est le sentiment, c'est tout ça. Ensuite, un truc très très français aussi, c'est le volontarisme. C'est l'idée que, comme la vie et la connaissance sont volonté et action, tout ce qui va compter, c'est en quelque sorte qu'est-ce qu'on veut pour vivre. Ce qui fait qu'on pourrait en quelque sorte soumettre nos représentations à notre volonté. Il y a des choses que je veux croire vraies, des choses que je veux croire fausses. Et ça, par exemple, pour un rationaliste, ça marche pas.
Et qu'on n'a pas besoin, et qu'on n'a pas à justifier.
Oui, et qu'on n'a pas à justifier, évidemment. Ça va. C'est clair que là-dessus, tu vas avoir tout un refus de l'argumentation. Ensuite, un point qui peut-être là pourrait être discuté aussi, c'est l'idée que dans la politique, la raison est totalement impuissante. Et que, alors ça c'est un point qui a été pas mal travaillé par Bouveret, sur lequel on est souvent revenu, c'est qu'en réalité, en politique, tout ce qui compte c'est la force, c'est pas les arguments. Et autant d'un côté, on peut que constater que effectivement la force l'emporte souvent, d'un autre côté, on peut se dire, oui, mais si on accepte ça, qu'est-ce qui nous reste ? Devenir les plus forts pour écraser les autres ? Ou se désespérer de lutter sur le plan des idées, c'est un peu compliqué. Donc, il définit ces 10 points qui lui permettent justement de circonscrire un petit peu l'irrationalisme contemporain, qui va pas forcément justement être à terrain découvert, qui va plutôt utiliser de temps en temps différents principes, tout en préservant en quelque sorte une espèce d'image, disant « Non, mais on est toujours, en fait, on n'a pas totalement trahi la raison, on n'a pas... mais nous, on préfère une autre raison.
» On fait une première pause après cette présentation générale. Donc sur le manuel de survie rationaliste de Pascal Angèle aux éditions Agone. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième partie ce soir. Émission consacrée au livre de Pascal Angèle qui s'appelle Manuel rationaliste de survie. C'est un livre qui a été édité aux éditions Agone en 2020 et que nous présente Michel ce soir, qui vient de nous présenter le champ de bataille, c'est-à-dire en fait les différentes ramifications de ce que Pascal Angèle considère être l'antirationalisme contemporain, c'est-à-dire tous les thèmes et tous les motifs et tous les modes d'argument qui sont mis en avant par les critiques, les diverses critiques de la raison, qui foisonnent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce manuel après?
Tu voulais pas critiquer les points un par un?
Non.
T'es sûr?
Non, mais ça peut.
Est-ce que je suis sûr que Martin a des choses à dire
sur
le
sujet?
Il a prétendu en micro être d'accord avec plusieurs
avec
des points critiqués.
4 et 7, oui. Voilà.
Non, je le signale quand même parce que ça suffit quoi. Il faut faire aussi des listes des gens.
Ouais. Alors effectivement, bon, c'est toujours important
d'essayer
de faire des listes et d'avoir une définition un peu précise de ce qu'on vise. Alors qu'on parle d'antirationalisme là. Et alors comment effectivement Angèle s'y prend dans cet ouvrage là? Un, pour démonter ouais. effectivement les différentes facettes de l'antirationalisme, et que propose-t-il?
Alors que propose-t-il déjà? Bah, il commence, c'est assez pédagogique la construction du bouquin. Il commence par une espèce de dialogue, du dialogue sur la raison, où il va mettre en scène deux personnes qui discutent. Quelqu'un qui est plutôt attiré par l'espèce de romantisme foutraque de l'irrationalisme, hein, les sentiments, tout ça, voilà.
Qui s'appelle
Il s'appelle Anarchasis. Mm-hmm. Et oui, mais voilà. Et l'autre, qui est une philosophe rationaliste, qui vient de passer ses concours pour devenir prof, et qui s'appelle Réminerva. Mm-hmm. Et il commence par des définitions qui, pour le coup, je pense, sont accessibles... À des gens qui n'auraient pas forcément fait de la philo à la fac et qui seraient curieux de savoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui définir la raison, et qui font un peu écho aux choses qu'ils présentaient justement dans les 10 points, parce que justement, voilà, c'est quoi la raison à partir de là? On nous dit la raison c'est bien, mais c'est quoi? Et il va partir en quelque sorte de trucs, une définition un peu abstraite, on sait que c'est mal, mais aussi en théorie et en pratique. Et une de ces idées, c'est que c'est des trucs qui sont de base et qui, pour pas mal de philosophes classiques, en fait, sont un peu évidentes. C'est que, par exemple, dans la connaissance, nous essayons d'adapter nos croyances au monde. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est un principe en quelque sorte réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des faits et on essaie de les connaître et on essaie d'adapter nos connaissances à ce truc-là. Et on peut pas partir d'une espèce de position volontariste où nous allons forger les concepts qui nous permettront de connaître le monde de manière relativement arbitraire et de dire, après coup, voilà, c'est mes concepts, ils sont tels. Donc là, je vois qu'il y a une contestation. Là. Allez, une contestation. Après, il faudrait ici distinguer deux choses. C'est-à-dire, peut-être que dans les faits, de nombreux scientifiques malhonnêtes vont forger leurs concepts et dire, ce sont les bons concepts. Et ensuite, d'autres vont essayer quand même de se dire mon idée là, globalement, elle est quand même contredite par des choses qui sont observables ou qui sont ne serait-ce que connaissables, disons. Et donc mon concept ne va plus. Et évidemment, il s'agit pas ici de dire, je pense, pour quelqu'un comme Angèle, on a la connaissance immédiate du bon concept de base. Simplement, il faut l'adapter. C'est-à-dire, c'est ça, adaptation de nos croyances au monde. C'est-à-dire que c'est un processus. Évidemment, très très souvent, les procès qu'on fait au rationalisme, c'est le procès
ça
du dogmatisme.
Quoi juste, je te coupe juste vite fait. Ça voudrait dire que la première manière de penser le rationalisme, c'est d'accepter, de contrôler ce que tu dis à propos du monde en fonction, effectivement, de la réalité extérieure.
Oui.
Quelque chose comme ça. Donc, d'accepter ça, effectivement, que tu puisses effectivement corriger, contrôler, deux, corriger ce que tu dis ou ce que
c'est
tu
ça.
Penses en fonction du monde extérieur.
C'est ça.
Bon. Donc ça, c'est une première manière, effectivement.
C'est ça. Et ce qui marque un parti pris, parce que tous les rationalistes sont pas d'accord avec
ça. Bien sûr. C'est un rationalisme réaliste, comme
c'est
tu
ça.
Dis.
Oui. Et pas un rationalisme idéaliste, à la Hegel. Et donc ça, c'est un premier truc. Mais adapter nos croyances au monde, à mon sens, cette formulation, elle évite aussi un procès en dogmatisme. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de dire qu'on a.
Il s'agit pas d'affirmer que la raison dit que. Il s'agit effectivement de voir ce que, effectivement,
c'est
ce qu'on peut dire.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire en fonction de ce à quoi j'ai accès? Et d'autre part, il va dire, et ça c'est en théorie, dans la connaissance, donc on essaie d'adapter nos croyances au monde. De forger nos concepts qui soient, taillés en fonction aussi du réel, autant que faire se peut. Et dans l'action, il va dire, et là c'est plus problématique peut-être, nous faisons en sorte que le monde s'adapte à nos désirs. C'est-à-dire qu'on va essayer de transformer le monde par l'action pour essayer de faire les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir de désirs irrationnels, puisque dans certains cas, justement, le monde ne peut pas être adapté à nos désirs. Et il faut renoncer. Donc là, on est presque sur du classique, sur Descartes, qui va dire transformer nos désirs plutôt que le monde. Et ici, je trouve que c'est intéressant parce que bon, il va poser deux trois choses. En particulier, ça, il y a tout un tas de problèmes par là dans la justification. Comment est-ce que globalement nous allons justifier ou nos désirs ou nos croyances? Et il va dire des choses du type voilà, quand nous invoquons nos relations entre nos croyances vraies et le monde, nous disons qu'elles ont des raisons ou qu'elles sont justifiées. Alors là, après, ça, c'est des choses qu'il va développer sur est-ce que c'est des raisons qui sont internes, c'est-à-dire est-ce que c'est justifié uniquement pour moi, ou est-ce que je peux avoir des raisons aussi objectives, c'est-à-dire des raisons qui vont être liées au monde. Et donc là, il y a tout un tas de choses du type, je sais pas moi, si par exemple, c'est un exemple qu'il prend, hein, c'est pas moi qui l'invente, si par exemple j'ai en face de moi quelque chose que je crois du gin tonic, dans lequel il y a du tonic mais aussi de l'essence, d'une certaine manière, mes raisons internes de vouloir le boire sont c'est justifié. D'accord? Mais si les raisons objectives, bah non, j'ai pas de raison objective de le boire puisque c'est de fait de l'essence et ça va m'empoisonner. Et mais ici, ça pose tout un tas de problèmes philosophiques, pour le coup, qui sont relativement ardus, parce que ça va poser le problème de distinguer justement, par exemple, les causes et les raisons dans un comment dire, dans un raisonnement. Et ça, c'est une des choses. Alors, mais bon, ça, il y va progressivement. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Parce qu'il va partir, justement, de... il va vraiment partir de la base. Voilà. Donc, avec des... quelles sont nos raisons d'agir? Quelles sont nos raisons de croire? Est-ce que je peux identifier ces raisons? Et est-ce que ces raisons sont objectives? Ce qui sont vraiment, pour le coup, des questions ardues. Parce qu'à des tas de niveaux... justement, les irrationalistes vont s'introduire là-dedans et dire ce sont des raisons locales, ce sont tes raisons, mais ce ne sont pas des raisons. Et pour le coup, le rationalisme peut être obligé de convenir. Sauf que la grosse différence, et je pense que ça c'est assez important, et aussi pour comprendre tout un tas de choses, c'est que le rationalisme essaie de poser des normes. C'est-à-dire que le rationaliste comme l'irrationaliste peuvent s'accorder pour dire les gens ont leurs raisons.
Oui, la question est de savoir, c'est pas tout de dire que les gens ont leur raison, la question est de savoir si ce sont de bonnes raisons.
C'est ça. Et la question est de raison. C'est ça. Et la question est ensuite de savoir si, justement, on peut distinguer.
Les bonnes ou des mauvaises raisons.
Les bonnes ou des mauvaises raisons. Et à partir de quand est-ce qu'on peut poser un critère de correction, en quelque sorte, dans la raison? Donc, il aboutit à une espèce de définition générale quand il dit la raison en général, c'est donc la correction dans la pensée et dans l'action. Alors, la correction dans la pensée, pour quelqu'un comme Angèle, à des tas de niveaux, ça fait pas trop de problèmes, je dirais, peut-être. Déjà, si tu suis les règles de la logique, que tu ne te contredis pas, ça peut être pas mal. Et par exemple, le principe de non-contradiction, je pense que pour quelqu'un comme Angèle, mais pas que, c'est un principe universel. C'est-à-dire que, quelle que soit la culture, en quelque sorte, la pensée humaine ne tolère pas la contradiction. C'est-à-dire que, quelle que soit ma culture, je ne peux pas croire qu'il pleut et qu'il ne pleut pas. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contradiction dans les pensées. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se contredire. Simplement, quand on s'en aperçoit, ça nous pose problème. En quelque sorte, la contradiction, tant qu'elle est inconsciente, elle roule, on vit avec nos contradictions, tout ce temps qu'on est. Le souci, c'est quand tout d'un coup, elle devient consciente et que là, on cherche une solution. Parce que, voilà, on ne peut pas croire deux choses à la fois qui s'opposent. Et je pense que cette espèce de côté normatif de la raison...
Y compris quand on veut rejeter le principe de contradiction.
Aussi. Oui, ça c'est Aristote, déjà, dans la métaphysique, qui disait que c'était contradictoire de vouloir rejeter le principe de non-contradiction et qu'on ne peut plus rien dire. Mais
D'ailleurs, on ne peut plus rien dire. Hein.
C'est vrai. En plus. D'ailleurs, Jean-Mathias, il ne peut plus rien dire depuis le début. Là, c'est fou, ça. Et je pense que...
Mais t'as aussi... Mais fait, je voulais le rappeler, quoi.
Ah oui, tu voulais le rappeler, c'est ça. Ouais. Mais je pense que, justement, ici, l'idée que la raison, ça va être avant tout la correction, à la fois dans la pensée et dans l'action, c'est une idée qui, comment dire, est peut-être à la racine du conflit entre le rationalisme et l'irrationalisme. C'est-à-dire que pour certains rationalistes critiques du type de Bouveresse ou sans doute d'Angèle, s'ils peuvent être mis sur le même point à ce niveau, il y a quand même l'idée que le monde est massivement irrationnel. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens pensent et agissent en dépit de toute raison. En niant les faits, en privilégiant en quelque sorte leur désir, non pas même sur la réalité, mais sur le possible, Et là-dessus, je pense que ils vont représenter la raison comme norme. Et les irrationalistes en face vont en quelque sorte inverser plus ou moins les choses. C'est-à-dire vont nous dire non, mais la raison, c'est la norme de ce monde. C'est-à-dire que le monde est gouverné par la raison et c'est un mauvais gouvernement. Et par conséquent, c'est à la fois, en quelque sorte, pour les anti, pour les irrationalistes, ça va être la norme et le fait. Et il faudrait pouvoir, en quelque sorte, s'opposer à ça, en disant, on pourrait vivre plus libre, etc. Il faut se libérer de cette fait, de ce fait qui est imposé par une norme totalitaire. Et là, je pense qu'il y a, peut-être un, comment dire, il y a quelque chose vraiment à creuser, je crois, dans le. Et après, ça va nous permettre de, parce que ça va nous permettre de retomber, par exemple, sur les idées de la réduction de la norme à la technique. C'est-à-dire que effectivement, si on réduit la raison à la technique, on pourrait dire que le monde occidental est totalement dominé par la raison, puisque la raison technique et instrumentale est à peu près présente partout.
Mais ça pose. Le chinois aussi.
Et ça, c'est ça. Et ça pose une question de. tu disais.
Les Chinois aussi.
Partout.
Partout. Voilà. Le monde occidental. Mais
ah oui, c'est vrai. Ah oui, 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 mais pas que le monde occidental, en Chine, en Inde, partout. La raison instrumentale va être partout. Et à partir de là, mais évidemment, ça suppose aussi que, par exemple, tu vas nier qu'il puisse y avoir un rationalisme des fins. Ou avoir un rationalisme des moyens. C'est-à-dire que ici, d'une certaine manière, la raison, ce serait juste quoi? Ce serait juste l'efficacité. Et je pense que le côté
rationnel, c'est efficace.
Donc c'est une espèce de pragmatisme. Et du côté d'Angèle comme du côté de Bouvray, je pense qu'il y a une contestation totale de cette idée-là. C'est-à-dire que ce qui est rationnel, c'est l'exception plutôt. C'est-à-dire que la norme, c'est plutôt les Trump, c'est plutôt les c'est plutôt des décisions qui sont prises pour de mauvaises raisons. Et je me rappelle d'un passage où Bouvray s'appuie sur. Sur cet auteur russe là, donc dont j'ai oublié le nom, celui qui a écrit, j'ai oublié le titre. Bravo, Michel, c'est magnifique.
N'en parlons plus.
Je pense que c'est mort là. si on oublie tout comme ça, c'est une catastrophe. Où justement, l'auteur russe dont j'ai oublié le nom dans le livre, dont j'ai oublié le titre, va. J'avais promis de pas en parler, donc j'ai oublié la citation. va dire quelque chose comme, en quelque sorte, être rationnel dans le débat, c'est en quelque sorte être asocial. Parce que la plupart des gens vont vivre ça comme une agression et seront au contraire volontiers irrationnels et enchaîneront les idées de manière complètement illogique. Et ce qui veut dire, il dit, regardez en quelque sorte n'importe quel discours d'un homme politique, n'importe quelle publicité, et vous verrez des associations d'idées qui n'ont aucune logique. Enfin, si, qui ont une logique, qui éventuellement, on pourrait dire une logique émotionnelle, mais qui n'ont pas, qui sont pas logiques, en tout cas, au sens rationaliste du terme. Donc là, je pense qu'il y a, il y a peut-être un des nœuds du débat, sur, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui domine dans le monde? Est-ce que c'est la raison ou est-ce que c'est l'irrationalité? Et il est clair que les irrationalistes, pour eux, le danger vient de la domination et de la domination qui est rationnelle, comme disait Foucault. Alors que pour les rationalistes, c'est une rationalité qui va toujours être tronquée, qui va être de fait irrationnelle et qui ne permettrait, qui en quelque sorte est plutôt des espèces de lumières, un peu coupées d'elles-mêmes et coupées de leur noyau rationnel.
Ouais. Après, il y a un point qu'il faudra que tu peux peut-être préciser, mm-hmm. c'est le fait de dire, en fait, si t'as les deux aspects de la raison dont mm-hmm. parle Angèle, ouais. D'une part, dans le domaine théorique, je dirais, ou des croyances, mm-hmm. Si on cherche à avoir des croyances vraies, oui. Le rationalisme, ça veut dire accepter de corriger et de modifier oui. nos croyances en fonction de la oui. réalité extérieure. Ça, oui. c'est pour le domaine théorique. Oui. Et dans le domaine pratique, dans le domaine de l'action, mm-hmm. être rationnel, ça veut dire choisir les moyens efficaces pour satisfaire nos
Tout
désirs.
À fait.
Ça, oui. on est d'accord là-dessus. Oui. Et donc, alors, il peut y avoir quand même des tout le problème, c'est qu'il peut y avoir des contradictions entre les deux aspects.
Bien sûr.
C'est-à-dire que,
c'est
évidemment,
ça, c'est le problème, ça.
Bah oui,
c'est clair.
Parce que si effectivement, tes désirs, justement, comme tu l'as rappelé, ils se moquent un peu de la réalité extérieure. Mm-hmm. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, tu peux aussi, effectivement, mm-hmm. parmi les moyens, pour satisfaire mm-hmm. tes désirs, tu peux effectivement, adopter les croyances qui te semblent le plus efficaces pour satisfaire tes désirs. Mm-hmm. Et ça veut dire que dans ce cas-là, tu tiens plus compte de la réalité. Voilà.
Oui.
Donc j'ai été clair là.
Oui, très clair.
Ce que j'ai dit. Donc effectivement, c'est un des problèmes un peu classiques de ça. C'est que t'as deux sens effectivement de la notion même de raison, de manière de comprendre la rationalité et qui sont pas forcément cohérentes entre elles. Et c'est vrai que là, c'est pour ça que du coup la question de savoir ce que c'est qu'une bonne raison, ce que c'est qu'une bonne raison, c'est une question qui est délicate,
très délicate.
Parce qu'une bonne raison dans le domaine théorique, c'est une raison qui te permet effectivement d'ajuster ta croyance à la réalité. Voilà. Donc ça, c'est une bonne raison dans le domaine théorique. Ça, c'est relativement simple à comprendre et à défendre, je dirais, comme position. Oui. Après, une bonne raison tout court dans le domaine pratique, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'effectivement, la bonne raison dans le domaine pratique, c'est celle qui va te permettre d'arriver à tes fins, d'atteindre ton but, de satisfaire ton désir. Oui. Le problème, c'est que ça, c'est effectivement
alors là,
pas,
Angèle, il répond
c'est
à
pas
ça.
Tout à fait rationaliste
à
comme, avis, comme manière de faire.
À mon avis, là, pour le coup, il a un peu, comment dire, bétonné le problème en disant que, et là, on voit que c'est une position rationaliste, il écrit, l'idée, c'est donc, qu'est-ce qu'être rationnel dans l'ordre du connaître ? C'est avoir les raisons correctes pour que nos raisons, pour que nos croyances soient vraies. Bon, c'est ce que tu disais. Il ajoute, il en va de même pour l'action, mais un peu différemment. Bon, cette phrase est magnifique. C'est la même chose, mais pas tout à fait. Et donc, quand le monde s'adapte à nos désirs, nos actions sont réussies. Très bien. Mais il ajoute que l'adaptation ne passe pas juste par les désirs, comme si le monde venait à eux. Elle passe par nos croyances, et surtout par celles qui nous semblent le meilleur moyen pour obtenir ce que nous désirons ou voulons. Croyances et désirs sont nos raisons d'agir. Mais ici, l'idée, c'est que, d'une certaine manière, avant la satisfaction du désir, et le
il
désir
faut des croyances vraies.
Il faut avoir des croyances vraies. Ce qui, mais à mon avis, ça annule pas. Ça annule pas ce que tu disais, je pense.
Je pense que moi, ça y répond.
C'est-à-dire qu'en fait,
est-ce que tu peux satisfaire tes désirs avec des croyances fausses ? Et en fait, la réponse est non, d'après Angèle.
Oui,
et
sauf que, à mon avis, il y a une question, par exemple, une question qui peut se poser de temporalité. C'est-à-dire satisfaire tes désirs immédiats, par exemple, ça peut se faire avec des croyances fausses. Du type, je sais pas, moi, ce n'est pas gênant de prendre l'avion 15 fois par jour si j'ai envie de voyager.
Ben, ça dépend ce que tu appelles gênant.
C'est ça, oui, ça dépend si ce que tu appelles gênant. Mais toi, tu penses que ça... Effectivement,
effectivement, le nœud, il est là. C'est qu'effectivement, c'est que la question, c'est ça. C'est est-ce qu'effectivement, tu peux satisfaire tes désirs, donc considérer que tu as de bonnes raisons d'agir voilà, pour atteindre tes buts, pour satisfaire tes désirs. Est-ce que tu peux le faire avec des croyances fausses? Et un rationaliste te dira non.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, il te dira non. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, en fait, c'est que c'est toi que t'es pas au clair sur tes désirs, que t'es pas au clair sur ta satisfaction, et que du coup, en fait, t'as rien satisfait du tout.
Et qu'il y a des chances que tu n'obtiennes aucune satisfaction au bout du compte.
Et qu'en plus, il y a des chances que ça plante. Voilà. Et que quand tu crois que ça va pas planter, en fait, voilà. Et c'est délicat, comme question,
Ouais, pour le coup, il les aborde et de façon, je pense, assez pédagogique et intéressante, si c'est des questions qui vous intéressent. Alors ça, c'était le premier chapitre. On fait peut-être une deuxième pause.
Pause musicale rapide.
Pause musicale. Ouais.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième partie, consacrée toujours au livre de Pascal Angèle, intitulé Manuel de survie rationaliste, qui a été édité aux éditions Agone en 2020. Et vous venez d'entendre un morceau de Mozart qui date de 2011 et qui s'appelle Un cas mystique typique.
typique. Alors, dans les deux premières parties de l'émission, tu nous as donné un aperçu, Michel, de la précision et aussi de la difficulté, hein, parfois, des questions que soulève la définition de ce que c'est qu'une attitude rationaliste, la difficulté aussi qu'il peut y avoir parfois à identifier les enjeux, en fait, des critiques qui sont faites à la raison de manière générale. Alors, tu as parlé, voilà, notamment les raisons théoriques, les raisons pratiques. C'est une question importante et c'est toujours un point important chez Pascal Engel depuis la plupart de ses ouvrages. C'est une thèse forte qu'il défend, c'est l'idée que la raison est effectivement porteuse de normes, c'est-à-dire que la raison c'est pas simplement ce qui nous permet d'être efficace, c'est pas ce qui nous permet non plus seulement, même si c'est aussi une affaire de normes, de découvrir ou d'accéder à la vérité. C'est que la raison, elle peut aussi être normative, y compris dans le domaine pratique, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons d'agir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Comment effectivement... Alors, il y a deux aspects. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est effectivement la thèse qui est défendue constamment par Pascal Engel depuis longtemps, qui est une thèse forte. Et il y a évidemment aussi toute la partie critique de son travail, c'est-à-dire l'espèce d'enquête sur les impasses multiples auxquelles nous conduisent les différentes formes d'irrationalisme. Alors je sais pas, peut-être que, voilà, je te laisse, comme il nous reste peu de temps, peut-être si je te laisse le choix, soit effectivement nous dire deux mots sur la manière dont il va défendre cette idée que la raison est elle-même porteuse en quelque sorte de normes, y compris dans le domaine de l'action, dans le domaine pratique, et que c'est important de les défendre, évidemment. Ou bien, est-ce que tu préfères peut-être nous donner un aperçu d'un certain nombre des critiques et du passage à la sulfateuse de... les critiques irrationalistes.
Je ne sais pas, à la sulfateuse, on la passe assez souvent, je pense, dans l'émission. Et il dit peut-être que là... alors, ce n'est pas des questions qui sont, comment dire, absolument résolues. Pour le coup, je pense que Angèle, effectivement, comme tu dis, défend des positions fortes. Alors, fortes, ça veut dire qu'ils sont aussi fortement contestés. C'est-à-dire, c'est des choses qui ont souvent pas mal de présupposés, qui impliquent d'accepter beaucoup d'idées avant d'être d'accord avec la conclusion. Et ça, il en est conscient, pour le coup, évidemment. Mais, par exemple, là, je vais revenir sur le côté pratique. Parce que, justement, dans les dialogues sur la raison qui ouvrent l'ouvrage, il va dire, voilà, il y a Anarkasis qui dit, mais... en quelque sorte, alors n'importe qui peut revendiquer ses raisons comme de bonnes raisons. Au début des années 2000, bon, ça ne nous rajeunit pas, l'émission de télé C'est mon choix montrait des gens avec des marottes absurdes qui revendiquaient leur choix parce que c'était le leur. Est-ce que ces gens suivaient la raison ou même avaient des raisons? Effectivement, là on a la question entre est-ce qu'ils suivent la raison ou est-ce qu'ils suivent leur raison? Et Angèle Minerva répond « Bien sûr, chacun a ses raisons ». Ce qu'on appelle parfois des motifs. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous pousser à agir. Bon. Et c'est ce qu'on pourrait... d'un côté, c'est... Alors ici, il y a une dimension entre la cause et la justification. C'est-à-dire, d'un côté, c'est ce que je vais avancer pour dire pourquoi j'ai... c'est ce que je vais penser qui m'a fait agir. Mais ça peut être aussi ce que je vais dire aux autres. Et c'est pas toujours la même chose. Il peut y avoir des grosses différences. Et donc, des motifs qu'il évalue à l'aune de ses propres préférences, désirs ou croyances. D'accord ? Chacun a ses raisons. On évalue à partir de nos propres préférences. Mais ce ne sont que des raisons qui lui apparaissent être telles, des raisons apparentes. Bon, classique, là encore. Or, de bonnes raisons doivent être concluantes. Et si elles sont seulement d'abord des raisons apparentes, elles n'en sont pas, car elles ne sont pas des raisons tout bien considérées. On ne peut dire d'une raison qu'elle en est véritablement une que si elle est conforme aux faits et s'impose à nous après examen. Et ici, il y a un principe normatif très fort, qui est peut-être très difficile à appliquer, à voir, c'est que pour Angèle, une vraie raison est guidée par un fait.
Dans le domaine théorique.
Dans le domaine pratique.
Pratique.
Aussi. C'est-à-dire, si j'entends sonner l'alarme d'incendie dans l'hôtel où je séjourne, là c'est l'exemple qu'il donne, hein, j'ai une raison de m'enfuir. Je peux cependant me tromper, et en ce cas, il n'y aurait pas de raison pour moi de m'enfuir. Si je crois avoir entendu l'alarme alors que l'alarme n'a pas réellement sonné, je crois avoir une raison, mais je n'ai pas de raison. Ensuite, on pourrait discuter sur le fait qu'il vaut mieux m'enfuir si je crois entendre une alarme que ne pas m'enfuir. Évidemment, mais ça, c'est dans le domaine qu'à la limite de l'action, qui est peut-être moins théorique. Mais si l'hôtel est effectivement en feu, mais que je m'en rends pas compte, il y a une raison pour moi de m'enfuir, qui est simplement le fait qu'il y a un incendie, même si je ne connais pas ce fait. C'est-à-dire qu'il y a le côté aussi inverse. J'entends pas l'incendie, il y a un incendie, j'aurais une bonne raison de m'enfuir, mais je vais pas le faire. Et donc il dit, les bonnes raisons sont celles qui sont constituées par des faits, elles sont objectives, et quand nous avons une connaissance des faits, elles ne sont pas seulement nos raisons, mais les raisons de faire ou de croire quelque chose. Je pense que par exemple, ce type de raisonnement pourrait être assez bien appliqué à la situation écologique. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui ont des raisons de continuer, nous y compris, hein, à vivre, en défonçant la planète. Mais ce sont nos raisons, elles reposent sur nos désirs. Mais je pense qu'ici, d'un point de vue normatif, objectif, on peut dire que ce sont de mauvaises raisons.
Oui, c'est assez clair.
C'est assez clair, par exemple. Alors, évidemment, je suppose qu'on peut trouver un immense éventail de cas où la question est bien moins claire. Et c'est souvent dans cet éventail de cas que nous, on se débat au quotidien. Il n'empêche que le principe de base, à savoir, s'il y a des faits à connaître, je dois essayer de les connaître pour essayer de me dépatouiller de la situation dans laquelle je suis, me semble un peu indiscutable. Après, est-ce qu'il y a des situations humaines dans lesquelles il n'y aurait pas de faits à connaître qui nous permettraient de nous dépatouiller? J'ai des doutes, disons. Est-ce qu'on peut toujours connaître les faits qui vont nous permettre de nous en sortir? Là aussi, on pourra en discuter. C'est sans doute plein de cas dans lesquels on est obligé d'y aller un petit peu au doigt mouillé. Ça, c'est la vie, je dirais. Il n'empêche que le principe de base, à savoir que si je dois prendre une décision sans fonction des faits qui sont connaissables, ça me semble relativement indiscutable. Et l'idée que si je me décide en dépit des faits que je pourrais connaître, c'est irrationnel, ça me semble aussi relativement indiscutable. Donc là, il y a une réponse, et c'est une réponse réaliste, au sens de... on peut avoir une connaissance des faits, et dans la mesure où on peut avoir cette connaissance, irrationnel de se décider par rapport aux faits connus. Et après, bon, là, dans la mesure où les faits sont inconnaissables, là, c'est un autre problème, je dirais.
Et donc, ça, je suis pas sûr qu'il défendrait ça complètement.
Ouais.
L'idée qu'au fond, ce que tu as l'air de dire, c'est que finalement, la seule valeur...
C'est le fait.
C'est la vérité, en fait, d'une certaine manière.
Ouais, possible.
Et que c'est la seule valeur, et que c'est la seule norme qui, finalement, que doit commander les autres. Et je suis pas sûr que...
Angèle, il n'y a peut-être pas jusque-là.
Tu
penses que si?
Je suis pas persuadé que ça. Je pense qu'effectivement, parce que ça, c'est une norme théorique. Il a écrit un livre sur la norme du vrai, donc bien sûr qu'il défend ça dans le domaine théorique. Après, est-ce que dans le domaine pratique, on a réglé tous les problèmes avec ça? C'est une question.
Bon, alors José s'agite avec ses petits doigts pour nous faire des ciseaux.
Bon, donc ça mériterait effectivement de regarder un peu plus près. Donc c'était le manuel de survie rationaliste de Pascal Angèle. Aux éditions Agone 2020, et on va se quitter avec un morceau d'un groupe qui s'appelle The Rationals, et un morceau de 1967 qui s'appelle Irrational.